RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Oui, bien sûr.
Bonjour à tous. Attention, c'est parti pour les GG, pour les grandes gueules. Rendez-vous bien évidemment au 32-16 pour être en direct avec nous jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec Charles Consigny, l'avocat. Bonjour maître.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec Abel Boyi, l'éducateur. Bonjour Abel.
Salut les amis.
Et puis accompagné par Barbara Lefebvre, l'enseignante. Bonjour Barbara.
Bonjour les amis.
Nos sujets de discussion aujourd'hui, il va être question de la résistance face à l'ancienne, l'enseigne McDo qui veut s'implanter. Elle a conquis les villes, maintenant elle veut s'implanter dans les villages et notamment dans le Jura. Et on fait de la résistance du côté de Saint-Amour. On en parlera avec vous. On parlera de la victoire d'Antonin Valentin, le candidat UDR. Vous savez, c'est le parti d'Éric Ciotti qui a rejoint le Rassemblement National en Haute-Savoie. Est-ce que c'est en train de marginaliser les Républicains? Du budget de l'État, mission accomplie pour Sébastien Lecornu, crise politique terminée. Mais d'abord, on va s'intéresser à un projet de CDI pour les jeunes. C'est le patronat qui veut ouvrir le débat sur le chômage des jeunes et comment les mettre dans l'emploi, les 15-24 ans. Et donc, le patronat a une idée, créer un CDI qui pourrait être rompu sans motif pendant les premières années.
Oui, en fait, on a déjà un problème avec le chômage des jeunes en France. Hein. C'est autour de 19% des 15-24 ans qui sont au chômage. Si on prend l'ensemble de la population, c'est 7,4%. Et le chômage des jeunes est plus important chez nous que si on prend la moyenne européenne que chez nos voisins. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de formation. Il y a aussi un problème avec l'orientation vers des filières porteuses. Et puis, il y a aussi le problème de l'entrée sur le marché du travail qui reste tardive en France, sans parler aussi, et ça aussi c'est important, de la fuite des talents. Il y a aussi beaucoup de jeunes diplômés qui quittent le pays. Bref, le MEDEF, fort de ce constat, fait une proposition choc qui déplaît déjà bien sûr à la CGT et qui fait beaucoup réagir. Un CDI qui pourrait donc intéresser les jeunes qui sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, qui serait moins bien payé, on évoque la possibilité de rémunérer sous le SMIC, et qui pourrait être rompu sans motif pendant plusieurs années. C'est-à-dire que la période d'essai, au lieu de durer 1, 2, 3, 6 mois, elle pourrait durer plusieurs années. En fait, c'est un système qui a été mis en place en Italie par Matteo Renzi en 2016. C'était un contrat à droit progressif pour les jeunes qui pouvait donc être rompu sans motif. Et plus tu restes en entreprise, plus tu acquiers des droits et plus ton CDI se transforme en vrai CDI. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas?
Écoutez ce qu'en dit Fabrice Le Sachet, c'est le vice-président du MEDEF.
Moi, ce qui m'étonne dans tous ces débats, c'est que personne ne se scandalise d'avoir 20% des jeunes au chômage en France depuis des décennies. Et donc nous, je ne dis pas qu'on a la science infuse au MEDEF, mais on essaye de réfléchir en fonction de ce qui a fonctionné au Royaume-Uni, de ce qui a fonctionné en Italie. Peut-être qu'on peut faire mieux, mais de se scandaliser de tout le temps, a priori, ce n'est pas une façon d'aider le pays. Donc, essayons de peut-être avoir un peu de sang-froid. Ce sont des pistes de réflexion. Ça ne plaît pas aux syndicats. C'est leur liberté la plus absolue de l'exprimer. C'est aussi notre liberté de nous mobiliser pour les jeunes.
Alors, le CDI moins protecteur, moins payé, mais où on acquiert des droits au fil des mois, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, Charles?
C'est sûr que ça n'est pas une idée sympathique, mais en même temps, il faut qu'on sorte un peu de nos névroses françaises où maintenant, ça devient la croix et la bannière de faire travailler quelqu'un, et où, quand vous faites travailler quelqu'un, il a à peine mis un orteil dans l'entreprise, qu'il veut déjà être en télétravail, en arrêt maladie, il a préparé sa saisine des prud'hommes, il s'estime déjà harcelé, discriminé, et il vous demande 3 ans de salaire après 2 jours de travail. Donc, stop, il y a un moment, stop, il faut quand même qu'on arrive à faire bosser les gens, et s'il y a un problème avec les jeunes dans le marché du travail, pourquoi pas essayer des formules. Renzi est un socialiste italien, celui qui l'a expérimenté en Italie, c'est pas Madame Meloni. Je pense que c'est c'est le CPE de Dominique de Villepin.
Ça s'était mal terminé.
Pour
rappeler pour les plus jeunes que Dominique de Villepin, premier ministre de Jacques Chirac, dernier premier ministre de Jacques Chirac, met en place ce CPE, enfin veut mettre en place un contrat première embauche qui ressemblait à ça. Alors, c'était pas 3 ans, c'était 2 ans, je crois, le CPE de mémoire. Et ça s'est fini par de grandes manifs de jeunes. Et Villepin, sans doute, sa carrière présidentielle s'est arrêtée à ce moment-là.
Ouais, mais ça s'est fini.
Peut-être redémarrer.
Dans de grandes manifs de jeunes. C'était un excellent truc, à mon avis, le CPE. Ce qu'on constate, c'est que où nous mène notre socialisme? Les Français sont désormais en dessous de la moyenne de l'Union européenne en richesse par habitant. On est à peine plus riche, j'ai regardé les chiffres, que les Slovènes ou les Tchèques. Et on est moins riche, beaucoup moins riche que les Danois, que les Hollandais, que les Allemands. Donc, il faut à un moment donné qu'on se retrousse les manches. Et moi, je pense qu'il faut cesser notre paranoïa par rapport au travail. Et je pense que tout ce qui va dans le sens du travail est une bonne chose. Donc, je suis pas opposé, moi, à cette mesure,
Abel,
cette idée.
Alors, moi, je pense aussi que c'est une bonne idée. Pourquoi ? Mis à part le fait qu'on peut faire une fixette sur le fait de pouvoir perdre son emploi sans excuse, on a une situation qui est catastrophique. On peut rappeler que l'âge moyen du premier emploi stable en France, c'est 29 ans, quand c'est 23 ans en Allemagne. Il y a une vraie problématique de chômage des jeunes et dans les quartiers populaires et dans les campagnes à cause de toutes les raisons que tu as données. Et on ne peut pas se dire qu'on les laisse comme ça. Et surtout, on parle
c'est
à la place des
c'est
jeunes.
C'est pas un problème de formation, en fait.
Oui, mais le problème de formation, on sait qu'il y a en France, il y a un problème de déterminisme social en fonction de là où tu vis. Parmi toute la liste des raisons aussi, t'as aussi certains jeunes qui ne veulent pas travailler. Ça, faut qu'on enlève ce tabou. T'en as qui veulent devenir influenceurs. Il n'y a plus la notion aujourd'hui de persévérance et d'excellence. Donc le jeune peut être victime de conditions sociales difficiles, mais aussi des fois il y a certains jeunes qui se déresponsabilisent un peu trop facilement. Et nous, c'est ce qu'on leur dit quand on intervient. Ça, c'est clair et net. Donc on ne peut pas rester en les laissant comme ça. Et je pense que je pense que les jeunes, ça leur plairait, contrairement, parce que moi je vois beaucoup de jeunes qui se plaignent de ne pas trouver du travail assez facilement. Donc si cette mesure, ça permet en plus une employabilité accélérée, je pense que ça aboutira à quelque chose de positif.
Déjà, en préambule, on peut dire que si la CGT a déjà commencé à éructer, c'est bon signe. Ça veut dire que ça ne doit pas être une trop mauvaise idée. Et pourtant, Dieu sait si je ne suis pas une ultra-libérale comme Charles, mais enfin, maintenant, de toute façon, dès que je vois la CGT s'agiter, je me dis, il faut que je tende l'oreille, ça doit être intéressant, en fait. Est-ce que ces gens ont aussi été regardés ce qui se passe en amont? Parce que venez voir ce que c'est aujourd'hui les formations, le niveau déjà des élèves qui ne cesse de s'effondrer en France, parce que là, moi je comprends bien l'employabilité des jeunes, etc., mais je pense que vous mesurez pas ce que c'est aujourd'hui les jeunes mal formés ou peu formés sur le marché du travail. Parce que la mesure du MEDEF, c'est surtout pour les jeunes peu qualifiés.
Oui, parce évidemment. Que je donne une statistique, 7 jeunes sur 10 qui sort avec un diplôme du supérieur ont un emploi en durée indéterminée. Voilà. Donc en fait la question se pose pas pour ceux qui sont formés.
Exactement.
Là on
donc,
parle de ceux qui sont sans formation, sans emploi, ni d'emploi, ni en études, ni formation, ni travail.
Donc le MEDEF pose à sa façon la question majeure qui est la sortie sèche de l'éducation nationale par des gamins que l'éducation nationale n'a pas su orienter correctement. En grande partie, et je peux vous le dire, étant dans la machine, il y a une part, tu dis, de déterminisme, mais il y a aussi un rôle des parents, qui
bien
pour
sûr,
certains ont leurs enfants en échec depuis le primaire, le collège, mais non, ça continue. Exactement. Non, mais je veux qu'il aille au lycée. Et comme la
et
machine.
Comme on redouble moins aujourd'hui, c'est une grosse erreur.
Non, on redouble plus.
Oui, on ne redouble
pas. On redouble plus. Et comme la machine éducation nationale encourage les gens à aller au lycée alors qu'ils n'ont pas les moyens d'aller au lycée, qu'ils n'ont pas la formation suffisante, qu'ils n'ont pas le goût de l'effort, qu'ils ont encore des lacunes en mathématiques et en français, qu'ils les ramènent à un niveau qui serait à notre époque un niveau de sixième alors qu'ils sont censés être en seconde. Moi, je suis désolée, vous avez une machine aveugle qui est sourde, qui s'appelle l'éducation nationale, qui continue à mentir aux élèves, à mentir aux parents. Faut donc pas s'étonner que tout le monde veuille aller au bac. Quand à un moment donné, le couperet tombe, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, le couperet tombe, allez, va sur le marché du travail. Comment voulez-vous que ces jeunes soient employables quand ils sont fatigués parce qu'ils restent une heure debout, quand ils n'arrivent même pas à écrire correctement des mails sans faire des fautes d'orthographe, etc. Donc aujourd'hui, le problème, il est en amont. Tant qu'on n'aura pas compris qu'à l'éducation nationale, il faut reprendre les choses à zéro et qu'il va falloir aller vers des formations de jeunes à la demande.
Le problème est en amont.
Mais il y a des jeunes qui sont faits pour, dès 14-15 ans, aller trouver des formations qui les mèneraient vers l'excellence professionnelle. Mais non, faut encourager tout le monde à aller vers le bac, le lycée, et vas-y que j'ai mon bac. Comment vous expliquez que vous avez 70% de réussite au brevet des collèges et que vous avez 90% de réussite au bac? Comment c'est possible? C'est bien qu'on gonfle les résultats du bac. Donc là, le MEDEF tire la sonnette d'alarme sur quelque chose qui est en réalité un non-dit et un grand tabou sur l'école. Donc arrêtons tous de nous mentir.
Le problème, c'est que
et vous verrez qu'il y aura moins de problèmes d'employabilité Charles, des jeunes non qualifiés.
Charles rappelait le destin funèbre du CPE. Politiquement, aujourd'hui, c'est un tabou. C'est-à-dire que j'attends de voir qui va reprendre cette proposition. Personne. Là, on arrive dans le débat présidentiel, parce que tu sais très bien que
personne
derrière, ce sont les facs qui vont s'agiter, les étudiants qui vont manifester, les syndicats qui vont être vent debout.
L'agite propre habituelle.
Mais d'ailleurs, l'UNEF l'a déjà
pardon
dit, les syndicats lycéens aussi.
Pardon de faire remarquer, ce système existe déjà pour les jeunes diplômés, c'est les stages. Tout simplement, il y a énormément de métiers dans lesquels vous commencez par des longs stages, pendant lesquels
avec
vous
des abus quand même parfois.
Oui, vous êtes d'accord, payé,
mais
etc.
Mais vous êtes quand même beaucoup moins bien payé. Oui, mais vous savez rien faire en même temps, un stagiaire.
Ah là là.
Oui, mais moi je pense que tout travail mérite salaire.
Mais ils sont payés.
Le travail
gratuit. Les stagiaires sont payés. Ça s'est amélioré par rapport à il y a quelques années. Hein.
Parce que pendant longtemps, c'était quand même. On te disait, on te prend ça, c'est normal, tu ne sais rien faire. Puis finalement, tu t'apercevais que tu faisais un vrai boulot et que pour l'employeur, ça coûtait moins cher d'avoir un stagiaire que d'avoir un type en CDD.
Mais au moins, t'apprenais quelque chose. Tu préfères quoi, passer le café, qu'il fasse des photocopies.
Mais faut pas non plus tomber dans les abus. C'est-à-dire, le travail doit être rémunéré quel qu'il soit. Alors peut-être pas au niveau. Effectivement, c'était encore en formation. Tu peux pas prétendre à toucher un salaire important, enfin quand même un minimum.
Discute aussi avec des gens qui ont des stagiaires, y compris des stagiaires d'école de finance et compagnie. T'en as certains, pareil. Hein.
On va passer par le 32-16.
Ça, c'est autre chose.
On va aller dans la Meuse.
Visio, etc. Donc, t'en
on
as
va
aussi.
Trouver Brice,
en visio, c'est
qui est conducteur de train TER. Bonjour, Brice.
Ouais, bonjour à tous.
Bienvenue, bonjour. Brice. Tiens, quelle température vous avez dans la Meuse, là, en ce moment?
Je crois qu'il y a 7 degrés, et puis c'est humide, hein. Il pleuvait ce matin fortement. C'est pas agréable. Vivement qu'il refasse beau, qu'on change d'horaire. Un peu de soleil, ça fera du bien.
Bah, encore un peu de patience.
Déjà,
camarade.
On a passé janvier. On a déjà fait un grand bond.
Ouais, alors, encore 2 mois.
Brice, qu'est-ce que vous en pensez de ce contrat, alors?
Alors, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur plusieurs choses. C'est qu'on a un niveau des jeunes qui est maintenant un peu vachement en déclin. Et que, en fait, on voit des jeunes qui veulent plus trop travailler, ils sont plus trop motivés. Mais après, c'est pas non plus le cas de tous. Ce qui me choque, moi, c'est qu'on va encore précariser le travail. Et si j'écoute Charles, en fait, à chaque fois, c'est pour la compétitivité, il faut précariser.
Ben, il y en a parce marre, que là, il est très précaire, le marché du travail en France.
Charles, je vous le jure, né en Meuse, né trouvé du boulot, bon courage.
On n'est pas obligé de rester en Meuse, déjà,
oui,
quand on change du boulot.
On n'est pas obligé de déménager, et puis on n'est pas tous cadres sup, on n'a pas tous des moyens. Ce que je veux dire, quelque part, à un moment, c'est qu'on va encore... SMIC, ça veut dire quoi? Salaire minimum. On va les payer encore en dessous. Et puis après, on va nous dire...
Oui, ah, bah, on tire vers le bas.
Non, mais attendez. Les retraites, on va nous dire, il n'y a plus de sous dans les caisses. Bah ouais, mais en fait, on ne les paye pas, les pauvres gars.
Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que, le MEDEF cherche de la main d'œuvre bon marché, taillable et corvéable, quoi, en fait, c'est ça.
Qui va se débarrasser comme d'une lingette Schiffer. Je veux dire, ils ont déjà le SMIC. Je veux dire, ils veulent encore en dessous. Chez nous, je vous prends un cas chez nous, on le voit un petit peu, hein. On a des alternants. Ils prennent beaucoup d'alternants.
Oui.
Ben, en fait, ils les utilisent parce qu'ils les payent pas cher. Et puis, ils dégagent. Ils les embauchent pas. Hein. En fait, c'est le nouvel esclavagisme.
C'est l'esclavagisme.
Je suis moyennement d'accord parce qu'on est en train de parler comme si ça s'adressait à tous les jeunes. On parle de ceux qui sont en décrochage social, scolaire, professionnel, culturel. Ceux qui sont sortis des radars, qui ont besoin de retrouver une activité, comme on a dit, qui ont pu être cassés par les dysfonctionnements de l'Assemblée nationale.
De l'éducation nationale.
Mais aussi certains qui ne veulent pas travailler et il y a besoin peut-être de remettre la machine en route. Alors, mais le jeune, ça ne le condamne pas à rester toute sa vie. C'est-à-dire, il peut travailler 6 mois, 1 an, il peut reprendre une formation, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont tellement perdu de motivation que même se lever le matin, ça devient un travail.
Brice,
donc je pense que ça peut être quelque chose.
Je vous mets au défi d'une chose quand même. Il faudrait savoir quand même qu'au jour d'aujourd'hui, moi j'ai un gamin qui a 22 ans, il est en emploi civique. Bon, il ne gagne pas beaucoup, mais on l'aide. Sa mère et moi, on l'aide. On est séparés. Hein. Et du coup, mais je me dis, demain, sa voiture, elle flanche. Il a un emploi comme ça, là, avec payé moins que le SMIC. Bah, il fait comment? Il va aller à la banque? la banque, elle va rigoler, elle lui donnera rien. Et chez nous, si vous n'avez pas de voiture...
Elle lui donnera quand même mieux, plus que si vous êtes au chômage.
Elle lui donnera rien du tout, parce que s'il peut être licencié du jour au lendemain, vous savez, les banques, eux, ils veulent ils se protègent, ils ouvrent le parapluie.
Oui, mais vous voyez, je pense que Brice, en plus, les jeunes aujourd'hui ne sont pas dans une recherche du CDI. Moi, on va pas faire de généralité, mais on voit quand même qu'il y a une évolution des attentes des jeunes face au marché du travail. On voit aussi que les jeunes, par exemple, on a du mal à embaucher dans la fonction publique, parce que les jeunes ne se projettent pas toute une carrière dans la fonction public.
Non, je n'est pas obligé de faire toute sa carrière. Hein.
Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, la quête du CDI, qui était plus moi de ma génération, c'était une obsession d'avoir un CDI, je pense que cette obsession n'est plus dans la tête des jeunes.
Je veux juste aussi rappeler que l'argent public sert à financer énormément de dispositifs.
Oui, ça.
Vous avez le contrat engagement jeune, l'accompagnement intensif jeune, ça s'appelle l'AIJ. Le passé à parcours contractualisé, accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
Ça ne marche pas si on ne sera pas à 19%.
Les dispositifs, sans parler de toutes les missions jeunes, la mission jeune emploi, là, qui ne marche pas non plus.
Ça, c'est un échec, tout ça. Voilà. C'est sûr.
Tout ça est financé alors par l'Europe en partie, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la garantie pour la jeunesse, l'Union européenne. Voilà. Plus, c'est payé par l'argent des Français. Donc, tous ces dispositifs ne servent à rien. Donc, à un moment donné, peut-être qu'effectivement, il va falloir pousser un petit peu les jeunes à revenir sur le marché du travail, en particulier ces décrocheurs. Donc encore une fois, la CGT ferait bien de se renseigner et de faire en sorte que, par exemple, quand l'éducation nationale cherche également à faire des réformes pour introduire un petit peu plus de sélection et introduire un petit peu plus aussi d'orientation professionnelle au plus tôt dans le cursus d'un jeune qui est déjà en décrochage, au lieu de hurler tout de suite à on cherche à briser les jeunes, qu'ils comprennent un petit peu et qu'ils aillent regarder en Allemagne comment ça fonctionne.
Brice, je vous remercie d'avoir été avec nous dans les JG. Bonne journée du côté de la Meuse. À bientôt pour de nouvelles discussions.
Pas la même intelligence.
Brice était plutôt contre en nous disant on va chercher de la main d'œuvre taillable et corvéable qu'on va payer à bas prix. Ça vous fait beaucoup réagir au 32-16, cette idée d'un contrat spécifique pour les jeunes, un peu moins protégés, moins bien payés, mais en fait, c'est au fur et à mesure que vous avancerez dans l'expérience professionnelle, exactement, que les jeunes pourront acquérir des droits. Les jeunes qui ne sont pas diplômés, bien sûr. Bastien, dans un instant, du côté de la Côte d'Or, lui trouve que c'est une bonne chose. En revanche, Giuseppe, qui est hôtelier-restaurateur, du côté de la Savoie, estime qu'on va plutôt tirer les salaires vers le bas.
C'est le
risque. Un CDI jeune, c'est moins protecteur, moins payé pour jeunes, ça existe en Allemagne, ça existe en Italie. Est-ce qu'on doit le faire en France? 32-16 pour en parler avec les GG, il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules avec vous, bien évidemment. Vous venez discuter au 32-16 avec aujourd'hui Charles Consigny, l'avocat, Barbara Lefebvre, l'enseignante en histoire, géographie, l'éducateur à Belboilly. Cette histoire de CDI pour les jeunes vous fait réagir. Bastien va en parler avec nous. Il est du côté de la Côte d'Or, commerçant dans l'automobile. Bonjour Bastien.
Bonjour, vous allez bien?
Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien Bastien, dites-nous tout.
Alors moi déjà, je voulais revenir sur ce qu'a dit Charles Consigny. Il a tout résumé dans le sens où les jeunes, à partir du moment où ils fait un contrat direct, ils veulent savoir combien ils vont avoir droit quand ils vont démissionner, et effectivement ils vont essayer de récupérer de l'argent pour récupérer de l'argent. Et je voulais dire aussi que Barbara, ce qu'elle a dit, elle a tout résumé. Les fautifs, c'est l'éducation nationale, et il y a deuxième fautif, c'est les parents. Alors moi je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est bien. Moi je pense qu'aujourd'hui on a un vivier de jeunes qui demandent que ça de travailler. Il y a des bons et il y a des mauvais, mais je pense que ce type de contrat peut donner la chance à des jeunes qui veulent s'en sortir, et en fait, ça va trier. Ça va trier, en fait, les jeunes qui vont bosser, qui vont montrer qu'ils sont capables. Mmh. Et en fait, le patron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, tiens, lui, il vaut le coup, ce ptio-là. Donc moi, je vais miser sur lui. Pourquoi il irait le virer au bout de 6 mois, 8 mois, 12 mois? Si on tombe sur un mauvais patron, on n'a pas de chance. Mais si on tombe sur un bon patron, et des bons patrons en France, il y en a. Moi, je le sais parce que je suis passé par là, on m'a donné ma chance.
À quel âge vous aviez quand on vous a donné votre chance?
Moi, je suis un ancien pompier de Paris, d'accord? Ouais. J'ai fait 2 ans de pompier de Paris, c'est ce qui m'a aidé dans ma vie. J'ai pas de bac, j'ai pas de brevet, j'ai rien du tout, j'étais une brêle à l'école. Je suis parti à l'armée, j'ai fait pompier de Paris, et eux, c'est eux qui m'ont donné ma chance. Et ensuite, j'ai gravi les échelons tranquillement. J'ai rencontré quelqu'un qui était directeur d'un magasin Célio, le prêt-à-porter masculin. Il m'a fait confiance, je suis rentré vendeur, j'ai fini directeur au bout de 5 ans. D'accord? Ensuite, j'avais un client qui était directeur chez Renault, le groupe Renault. Il m'a embauché en tant que vendeur. Mon premier mois en tant que vendeur, j'ai vendu 18 véhicules. J'avais jamais vendu de voiture de ma vie. Sauf que moi, je suis quelqu'un Bah, je suis un gagnant. Voilà. Mmh. Et je pense que des gens comme moi, il y en a plein en France, des jeunes aussi, qui mmh. manquent à travailler. Donc, les bons, ils resteront. Et les mauvais, eh ben, ils continueront à retourner en bas des bâtiments. Ils continueront à faire ce qu'est leur petit business à côté. Mais les jeunes qui valent le coup, eh ben, je pense qu'ils peuvent y arriver et ils peuvent avoir un futur professionnel adéquat et pouvoir s'en sortir.
Bastien, je peux vous poser une question? Oui. Dans toute votre carrière, parce que je pense que vous n'avez pas été deux pieds dans le même sabot, vous n'avez jamais été au chômage de votre vie?
Vous savez quoi? Vous êtes très forte. Très, très forte.
Bah, c'est pour ça que... Non, mais parce que ça se sent. Oui. C'est rien qu'à savoir, on sent l'énergie, on sent l'envie.
Je vais vous dire, madame, la seule fois où je me suis arrêté, vous avez tous rigolé, j'avais 25 ans, et vous savez pourquoi? J'ai chopé la varicelle.
Voilà.
La seule fois où je me suis arrêté. Et je vais vous dire une autre
chose. Vous avez commencé jeune à travailler?
Bah, j'ai commencé à 18 ans en tant que pompier de Paris, j'ai fait 2 ans et ensuite j'ai volé mes propres ailes. Et ça fait depuis 15 ans que je suis installé à mon compte, j'ai un garage automobile, je vends des voitures et j'ai une vie formidable parce que je kiffe mon métier, je rencontre plein de gens et moi je peux vous dire que des jeunes, j'en vois plein parce que je vends beaucoup de voitures à des jeunes permis, je vends beaucoup de voitures à des jeunes qui viennent avec leurs parents et tout. Et aujourd'hui les fautifs c'est les parents, c'est les parents, moi je vais vous expliquer, j'ai deux enfants.
Et pourquoi c'est les parents?
Si je peux encore...
Allez-y.
J'ai deux enfants, d'accord? J'ai une fille qui était scolaire. Elle a pris plusieurs voies et aujourd'hui, elle travaille. Elle fait des études dans un domaine bien spécifique, et le bien-être et tout. Elle a 25 ans. Elle s'appelle Lola. Je suis hyper fier d'elle, d'accord? Et j'ai un fils, et c'est là que vous allez comprendre, qui s'appelle Sacha, qui a 20 ans. Mon fils, quand il a commencé à aller à la maternelle, on a détecté qu'il était dyslexique, dyspraxique, enfin tous ces trucs-là. Donc il avait beaucoup de mal à l'école, d'accord? Et on s'est dit avec sa mère, aïe aïe, ça va être compliqué. Sauf que, nous, les parents, la chance que mon fils a eue, c'est qu'il faisait un sport, d'accord? Et ce sport, c'est ce qui l'a aidé, si vous voulez, à pouvoir rester à flot au niveau de l'école. Mais il y a un moment, on s'est dit, soit on continue l'école, mais ça va être catastrophique, soit on essaie de miser sur le sport. Et donc aujourd'hui, mon fils, avec la motivation qu'il avait, avec la motivation que moi j'avais, et j'ai toujours cru en lui, on a toujours cru en lui, et ben mon fils, il est sportif de haut niveau maintenant. Il a 20 ans.
Bravo.
Et il gagne. Je vais vous dire qu'il gagne moins que le SMIG, parce qu'il est jeune, d'accord? Par contre, tous les matins, il se lève, il a la banane, et aujourd'hui, l'argent, ça fait pas tout. Ce qu'il faut, c'est se lever le matin, et kiffer pour aller au travail. Et moi, j'ai 54 ans, bah, tous les matins, je kiffe de me lever pour aller faire mon métier. Et ça, aujourd'hui, quand un jeune, il commence un métier chez un patron et que ça lui plaît et qu'il est motivé, c'est pas possible qu'il arrête et qu'il se dise je vais aller essayer d'avoir des aides ou des choses comme ça et je vais arrêter de travailler. C'est pas vrai. Moi, j'y crois pas. Et aujourd'hui, il faut que l'entourage des jeunes ait confiance aux jeunes. Aujourd'hui, plus personne s'occupe des jeunes. Plus personne. Et les parents, c'est des fautifs. Je suis désolé, ça va pas plaire à tout le monde. Mais aujourd'hui, si vous êtes pas derrière vos enfants et si vous n'arrivez pas à comprendre le problème qu'ils ont et où il faut qu'ils aillent pour qu'ils puissent réussir, eh ben c'est que vous n'avez pas fait votre job.
Le discours positif de Bastien, positif et motivant, Bastien.
On a trouvé le frère de Barbara en plus.
Bastien, il souligne une chose, c'est-à-dire qu'il dit, bon, les parents, mais l'éducation nationale pourrait aussi détecter les gamins assez tôt qui, effectivement, ne sont peut-être pas faits pour faire de longues études, mais
ça, on les détecte.
Qui ont des capacités peut-être pour aller vers d'autres.
Je vais vous dire, il y a un truc, à la fin, nous, on sent déjà, par exemple, en quatrième, ça va pas. On a des gamins qui ont des problèmes, des déscolarisations, des problèmes de fond qui font qu'on sait très bien qu'ils vont pas pouvoir poursuivre. Il y a un truc qui s'appelle la troisième prépa métier, qui est une espèce de sas de troisième, qui ensuite peut les envoyer vers des formations professionnelles. Des troisièmes prépa métiers, vous en avez à peine une par bassin d'éducation. Et comment vous voulez faire pour qu'on y envoie tous les élèves qu'on a? Donc c'est hyper sélectif, et on a des gamins qui sont même sélectionnés sur les notes pour aller là-dedans, donc ils peuvent pas rentrer dans la troisième prépa métier. Ça, c'est des choses qu'il faut généraliser, il faut arrêter d'emboliser le lycée général et le lycée technologique. Exactement. Il faut arrêter, développer la filière professionnelle. Mais ça, c'est à l'Éducation nationale de...
Merci à Bastien d'avoir été avec nous et merci pour son discours plein de bon sens. Giuseppe veut réagir aussi, hôtelier-restaurateur en Savoie. Bonjour Giuseppe.
Bonjour les
GG. Vous êtes plutôt à l'inverse. Vous pensez que c'est une mauvaise idée ce CDI-là, façon BDF?
D'abord, je vais revenir sur ce qu'a dit le précédent auditeur, que je rejoins sur plein de points et félicitations à lui. C'est un bosseur. Moi aussi, je suis né en Sicile, vous parlez de l'Italie. J'ai commencé à travailler, j'avais 11 ans. Vous savez, l'éducation là-bas, c'est pas la même. Hein. On commence dès qu'on peut, dès qu'on est au niveau du comptoir, on peut faire des cafés, on peut travailler. Et je le rejoins sur plein de points. Quand on est motivé, quand on est à la gnaque, moi aujourd'hui, je suis hôtelier-restaurateur, j'ai mon activité, ça se passe bien en Savoie, mais on n'est pas tous pareils. On peut pas appliquer son exemple à tout le monde. Aujourd'hui, d'ailleurs, la proposition, elle serait pour ceux qui sont sortis du circuit. Moi, personnellement, je pense que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que déjà, comme ça, avec un SMIC, avec parfois des logements, on n'arrive pas à attirer les jeunes dans les métiers les plus compliqués. Je vois pas comment, en envoyant le message que vous allez travailler tout autant, être payé moins et facilement éjectable, on arrivera à les embaucher.
C'est vrai que c'est pas très vendeur.
Je comprends pas, et en plus, pour moi, c'est ne pas comprendre la logique de la nouvelle génération sur le travail. Alors là, c'est un autre sujet, il y a plein de sujets dans le sujet. Je rejoins sur l'éducation à l'école, l'éducation à la famille, dans la famille au travail, l'éducation à l'effort, tout ça, il y a plein de travail.
Et quand vous dites les attentes des jeunes face au marché du travail ont changé, sont plus les mêmes?
Mais bien sûr qu'ils ont changé, on n'est pas. Moi j'ai 40 balais les mecs, j'ai 40 balais. Je ne suis pas éduqué de la même manière. Mmh. Et quand je discute avec les jeunes, même si je ne suis pas d'accord, je suis resté jeune dans ma tête, même si je ne suis pas d'accord sur plein de points, je peux comprendre qu'il y a une autre manière d'envisager le travail. Mais tout ça, c'est vraiment un global. On peut pas juste s'arrêter sur un aspect du problème du marché du travail et là-dessus faire une proposition. C'est pas possible. Il y a tout un truc autour sur l'éducation à l'école, à l'effort, l'éducation au travail manuel, l'éducation dans la famille, à la place du travail, dans la vie, etc., qui a un global. Là, on prend juste...
Oui, mais justement, Giuseppe, le monde du travail, c'est un système, c'est une micro-société, l'entreprise. Or, aujourd'hui, avec la mentalité individualiste, moi, je peux comprendre qu'on veut s'épanouir au travail. D'accord, tout le monde veut s'épanouir au travail. Mais quand tu arrives au travail, il y a d'autres gens avec qui il va falloir travailler, il y a des objectifs qu'il va falloir réaliser. Ça peut pas être juste ton épanouissement personnel et individuel qui doit primer surtout. Or aujourd'hui, on a une jeunesse, il faut que leur intérêt personnel prime sur l'intérêt collectif.
On favorise cela.
Justement, l'éducation parentale, l'éducation parentale, ça doit être aussi de dire ton petit nombril, il n'y a pas que ça, c'est pas le centre du monde.
Est-ce que vous voudriez prendre, vous, par exemple, en hôtellerie-restauration, un jeune de 14 ans et le former?
Mais bien sûr que je me vois le prendre, un jeune de 14 ans formé.
Donc c'est une bonne mesure alors.
Mais il n'y a pas besoin de cette mesure pour embaucher un jeune de 14 ans. Il y a l'apprentissage, il y a le pré-apprentissage, il y a la période d'essai qui est renouvelable. Il y a plein d'outils qui déjà en 4 mois, parce qu'une période d'essai c'est 2 mois renouvelable en général. Si déjà en 4 mois tu n'es pas foutu de tirer le profil de ton salarié et savoir si tu veux continuer de travailler avec ou pas, sois pas patron, parce que ça veut dire que tu n'es pas bon dans ce qui est le profilage.
Giuseppe, je vous interromps parce qu'on a un appel qui vient des États-Unis de Miami. C'est Joe qui est chef d'entreprise. Bonjour Joe.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors on a un petit décalage. Merci de nous suivre là en ce moment des États-Unis où il est minuit quoi en fait, c'est ça?
Oui, un petit peu.
Et qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de CDI? Alors pourquoi ça vous fait réagir des États-Unis? Expliquez-nous alors.
Parce que je travaille tard le soir parce que j'ai pas mal de clients français et tôt le matin parce que je suis en synchronisation avec certains clients qui sont restés en France. La proposition de loi utilise des codes qui n'existent plus aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui ne travaillent plus du tout de cette façon-là. Nous, on veut leur imposer nos propres codes dont on a été éduqués avec ça. Mais eux, l'éducation nationale a des codes qui sont vieux des années 50, des années 60. Aujourd'hui, les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent? Il est payé pour rester à la maison. Il touche son RSA. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver une activité à côté. Et son activité à côté va lui faire beaucoup plus qu'un SMIC sur lequel il va arriver. Il aura travaillé combien d'années? Le patron lui aura fait faire prendre des responsabilités qui sont quasiment équivalentes à un employé qui a un CDI et à l'arrivée être payé au SMIC. La valorisation du travail en France n'est pas du tout celle qui est exercée dans les pays à l'extérieur. Vous avez des
entreprises... Notamment aux États-Unis?
Pardon?
Notamment aux États-Unis, c'est ce que vous constatez sur place?
Oui, bien sûr, on est aux États-Unis, vous êtes payé, vous avez des métiers à zéro qualification qui sont payés $15 de l'heure. Vous allez me dire, ouais, mais c'est rien du tout. Mais ils n'en ont pas qu'un métier aujourd'hui. Aujourd'hui, ils n'ont pas qu'un seul métier. Et les jeunes que vous avez, sur lesquels vous faites proposition de loi, n'ont pas qu'un seul métier. Allez dans les cités. Moi, ça faisait 5 ans que je n'étais pas venu en France. J'ai fait un aller-retour, mais j'ai vu une vraie dégradation. On explique tout un système social qui, pour moi, est le système de financement du Parti Socialiste. Mais de l'autre côté, vous allez dans les cités, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez des gens qui travaillent. Vous avez une micro-économie complète, oui, où les gens font des repas, font des plats, font des machins. Mmh. Et ils se servent tous entre nous. Ça passe par Instagram. Et tout ça échappe au système. Et après, derrière, on veut les remettre dans des cases. Mais pourquoi faire?
C'est
ils n'y rentreront jamais. Ils n'y rentreront jamais. Et aux États-Unis, ils ont compris ces codes-là. C'est pour ça qu'ils ont libéré. Pourquoi vous avez la TVA à 0% aux États-Unis? Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi en France, on fait payer une TVA et les entreprises, on leur fait récupérer la TVA? Pourquoi? Pourquoi on fait payer le particulier la TVA? Pourquoi c'est pas l'inverse? Pourquoi la TVA ne serait pas non récupérable, tout simplement? Et vous avez réglé 100% des problèmes.
Joe, l'exemple...
Non seulement plus de marché noir... Vous n'avez plus de marché noir, 0% de TVA. Mais
dites-moi, Joe.
Le marché noir n'existe plus.
Oui. Joe, contrairement à ce que dit Alain, il n'est pas minuit. À Miami, il est 3h37 du matin. Donc en fait, vous écoutez les GG au milieu de la nuit?
Oui, j'aime bien les GG et j'aime bien aussi une autre émission qui est C'est un Moscato Show. Mais j'arrive
vous êtes insomniaque, quoi.
Parce qu'il me fait réagir, lui aussi.
Merci Joe d'avoir été en direct avec nous des États-Unis. Merci de nous suivre de l'autre côté de l'Atlantique. Merci bien. Merci à tous ceux qui ont participé à nos discussions. CDI jeunes moins protégés, moins payés. Est-ce que c'est la solution, oui ou non? Qu'est-ce que vous en dites? On va regarder le résultat final. Vous dites est-ce que c'est la solution pour faciliter un emploi? C'est non. Non, franc et massif à quasiment 74%.
Le sujet est mal présenté aussi. Oui.
Dans un instant, le on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Venez discuter avec les GG, avec les grandes gueules tout à l'heure à 10h lorsqu'on parlera du vote du budget. Ça va être définitif tout à l'heure. Est-ce que c'est mission accomplie pour Sébastien Lecornu? Est-ce que la crise politique est terminée? Ça, c'est au 32-16 à 10h avec Barbara Lefebvre, Abel Boyer, Charles Consigny. En attendant, à 10h moins le quart, selon on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas. Avec Louis Gerbier aujourd'hui. Bonjour Louis.
Salut Alain, bonjour à tous.
Quoi de neuf?
Daniel Bravo, ancien joueur et commentateur sur beIN Sports, suspendu après une remarque sexiste à l'antenne lors de Paris FC OM. On s'en fout, on s'en fout pas, Abel.
On s'en fout pas.
Charles.
On s'en fout pas.
Et Barbara.
On s'en fout pas.
Alors Christophe Joss et Daniel Bravo, c'est le duo de commentateurs de beIN Sports pour la Ligue 1. Ils commentaient vendredi dernier Paris FC OM 2-2. Dans les tribunes, Gaëtane Tinet, ancienne joueuse du club du Paris FC, est toujours dans l'encadrement puisqu'elle est directrice sportive de la section féminine. Bah, elle se trouvait en tribune, elle a été filmée pendant le match et elle était en train de discuter avec sa voisine et Daniel Bravo s'est fendu d'une remarque complètement sexiste puisqu'il a affirmé qu'il la trouvait pas très attentive avant d'enchaîner. J'ai l'impression qu'elle parlait lingerie. Il a été suspendu jusqu'à nouvel ordre, Barbara.
Je trouve ça absolument honteux. Donc, lutter contre le sexisme, aujourd'hui, c'est synonyme de persécuter les hommes. On a bien le droit de faire une blague. Ah, elle dit. Alors, si ça avait été deux hommes qui discutaient et que la femme dit « Eh ben, dis donc, ça discute moto, hein ? Ah là là, encore en train de parler des moteurs GTI !» Ah ben, on va suspendre la femme. Ah ben non, on la suspendra pas, elle, parce qu'elle dénonce le patriarcat. Ah, c'est bien, bravo. Bravo, madame. Par contre, lui, il fait une petite remarque.
C'est exagéré.
Mais comment on ose suspendre quelqu'un parce qu'il a fait une blagounette sur deux femmes qui papotent? Oui, quand deux femmes papotent, peut-être qu'elle parle lingerie, peut-être qu'elle parle moteur. Oui. Et c'est pareil pour les hommes. Ouais. Peut-être qu'ils parlent caleçon ou peut-être qu'ils parlent moteur. Non, mais il faut que plus rien soit genré. À une seule condition, les femmes, elles ont droit à tout et les hommes n'ont plus droit à rien. Je m'insurge et je demande qu'on arrête de persécuter les hommes qui ont le droit de rigoler sur la lingerie des femmes.
Et en plus, le plus stupide, c'est féminin. Que le milieu du foot étant un microcosme où tout le monde se connaît, peut-être qu'ils sont potes hors des terrains. C'est ça le pire. Et ce qui est terrible,
mais
c'est
qu'on ne le sait pas, nous.
Oui, on ne le sait pas, mais peut-être. Et beIN Sports pense être défenseur de la femme en faisant ça. C'est ridicule, c'est démago et ça ne sert à rien en réalité.
Charles.
En réalité, je m'en fous un peu, mais je suis contre la censure. Et je pense que cette censure n'a pas lieu d'être.
Non, parce que toi, Charles, tu voulais me parler plus du 4-4-2 de l'OM vendredi, tu m'avais dit.
Absolument. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un gros sujet.
Ouais. Allez, on enchaîne.
Merci, patron. Merci, patron. Merci, patron. Quel président.
Charlots.
Bien sûr, les Charlots.
58% des Français pensent qu'un patron ferait un bon président. On s'en fout pas, Charles.
On ne s'en fout pas.
Abel.
On s'en fout pas.
Et Barbara.
Non, on s'en fout pas.
C'est un sondage OpinionWay. Une large majorité des sondés considèrent que les gouvernements successifs ne comprennent pas la réalité auxquelles les entrepreneurs sont confrontés. Et le sondage témoigne aussi d'une reconnaissance de la contribution des entreprises à la richesse nationale. C'est pour ça que les personnes interrogées considèrent les entrepreneurs comme les plus capables de créer la croissance et l'emploi. Charles.
Bah non, je pense que les Français ont raison. Les hommes politiques ont montré très largement leurs limites. La France est dans une situation extrêmement dégradée. Ils font preuve de beaucoup de désinvolture, ils obéissent à des règles et à des codes qui échappent complètement au reste du pays. Tout le monde en ce moment félicite le cornu d'avoir fait atterrir son budget, alors que tout ce qu'il a réussi à faire, c'est à créer un nouveau quoi qu'il en coûte pour se sauver, et sauver Macron et sauver cette assemblée piteuse. Je pense pas qu'un PDG du CAC 40 aurait tricoté le même budget. Je pense qu'on aurait... dissous l'Assemblée, provoquer des élections, enfin on serait passé aux choses sérieuses. Donc voilà, je pense que les dirigeants d'entreprise qui ont fait leurs preuves, les entrepreneurs en particulier, mais pas seulement, sont à mon sens aujourd'hui plus à même de gouverner sérieusement la France dans le contexte de la mondialisation et de la guerre économique mondiale que les hommes politiques classiques qui cèdent trop souvent à la démagogie et aux magouilles politiciennes.
Abel, et puis Abel. Les Français sont en recherche, en plus de tout ce qui vient d'être dit, d'une capacité managériale, de managers qui sont capables d'établir des objectifs à court, moyen et long terme, capable de faire des bilans et de reconnaître aussi lorsqu'ils ont échoué pour se remettre en question, chose que l'on ne voit pas chez les politiques. Et surtout, une personne qui incarne une vision. Un chef d'entreprise, c'est un visionnaire. On voit que nos politiques sont aveugles aujourd'hui. Donc je comprends que cette volonté soit très présente dans le peuple.
Barbara.
Ouais, enfin, De Gaulle, il n'était pas patron. Et pourtant, il a redressé la France. Mais il a su faire confiance à des patrons. Donc... moi, c'est pas parce que t'as été patron que tu vas être quelqu'un qui va savoir ficeler un budget, parce que derrière, de toute façon, tu seras toujours tenu par des politiques qui vont être tes députés, qui vont être tes ministres, etc. Donc, c'est comme quand on nous avait dit, oui, la société civile, c'est ça qui nous sauvera, qu'on n'ait plus des politiciens qui ont toujours fait ça. Bon, on a eu la société civile de Macron, on a vu ce que ça a donné. Donc, moi, excusez-moi, si c'est pour avoir monsieur Leclerc ou monsieur Pigasse à la tête de l'État ou même Bernard Arnault, je suis pas sûre du tout.
Et Trump, parce qu'on a.
Alors voilà, et c'était là que je voulais
en venir. Le sourire que tu.
Mais alors, justement, merci de me servir la seconde.
Merci. On a un patron en ce moment au pouvoir,
c'est ça. Par contre, quand c'est Trump, alors là, oh non, c'est pas bien. Le deal, c'est pas bien. On n'aimerait pas avoir un Trump. Ah, mais. Alors, et par contre, regardez, 58% des Français, peut-être qu'ils voudraient d'un Trump. Voilà, donc.
Je pense qu'ils pensent
un patron. Un patron, ça veut pas dire Trump, forcément.
Oui, ben ça veut pas non plus dire Mathieu Pigasse, si tu veux.
Non, je pense pas que c'est Mathieu Pigasse, mais il pense plutôt peut-être un Michel-Édouard Leclerc.
Mais Michel-Édouard Leclerc, il a dirigé des hypermarchés, il va diriger. Et encore, il en dirige même plus. Par contre, il vient sur tous les plateaux pour parler d'une entreprise qu'il dirige même plus.
Un petit patron. Johnny Blanc.
Mais non, mais je ne vois pas, je ne pense pas que ton métier te garantissent comme dans l'efficacité. C'est pas parce que tu vas mettre un prof au ministère de l'Éducation nationale qu'il sera bon, un médecin au ministère de la Santé qui sera bon.
Il y a eu Francis Maire, il n'y en a pas eu 50, il y a eu Thierry Breton.
Oui, ben, oh là, il y a eu quelques-uns. Et il a tué Athos.
Non, est-ce qu'ils ont été meilleurs? Du temps de Thierry Breton, Bercy était bien géré.
Abel a raison. Il faut juste quelqu'un qui a la vista et ensuite quelqu'un qui a le courage politique. Eh ben, ça, excusez-moi, que tu sois patron, que tu sois politicien, c'est pas gagné. Il faut juste une personnalité qui a des cojones.
Bernard Tapie, en son temps, pardon, mais beaucoup auraient aimé que Bernard Tapie soit président.
Il aurait été un peu le Trump français.
Et oui, Bernard Tapie qui a finalement coulé toutes les entreprises qu'il a reprises. Mais allons, c'est pas grave aussi. Allons-y gaiement.
Le problème, c'est que pour faire de la politique, il faut avoir certaines qualités qui souvent, par exemple, te mettent, quand tu es patron, dans un... Comment dire, t'es pas forcément un bon patron si t'as envie de faire de la politique. La politique, c'est un truc qui attire les gens qui ont une faille narcissique, qui ont certains défauts.
Certains patrons longs, cette faille
certains
narcissique.
Patrons longs.
On enchaîne, le dernier 11F.
Ben, je vous emmène à Mulhouse.
Ah, super.
Des étudiants d'une école d'art détruisent une voiture de police en piñata. Vous savez, la piñata, c'est cette espèce de truc en papier mâché à dégommer avec des bonbons à l'intérieur. Tradition mexicaine. Donc, des étudiants d'une école d'art détruisent une voiture de police en piñata lors d'une performance. Vous en foutez ou pas, Barbara Lefebvre?
Moi, je m'en fous pas.
Abel.
On s'en fout pas.
Pas Richard. Complètement.
Pas complètement, un peu quand même apparemment.
Non, mais c'est une performance, déjà explique-nous une performance.
Vous allez voir les images, les images sur RMC Story. On voit donc ce gros carton qui représente un véhicule des forces de l'ordre. Et puis dans la haute école des arts du Rhin, on voit des étudiants frapper dessus. C'est le principe de la piñata.
C'est une performance artistique.
Voilà. Bien convenu.
Mais alors, la polémique vient du fait que Laurent Nunez dénonce des faits inadmissibles, Charles.
Non, mais surtout, je trouve que c'est tellement convenu. Tu es un étudiant en art, qu'est-ce que tu fais? Tu es anti-police. Et ton grand courage et ta grande créativité te portent à construire une fausse voiture de police pour la défoncer. Et c'est ça ta performance. Mais c'est vraiment être un punk en carton, justement. Voilà, c'est des punks en carton.
Abel. Non, mais le scandale, il vient
pas
de là. Bruno
Retailleau aussi est monté au créneau.
Le scandale vient du fait que la justice est saisie pour outrage aux forces de l'ordre. Oui. Dans un pays où il y a 3 millions de plaintes qui sont en souffrance parce que le système est débordé. Dans un pays où il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes, je crois. Aujourd'hui, on saisit la justice pour une fête à la con comme ça. Donc, moi, le pays tourne à l'envers. En réalité, bon, c'est des jeunes qui s'amusent. Ça devrait être un non-sujet. Et on voit que des politiques encore à l'approche des municipales veulent trouver une lumière et sont dans le jeu
de président
qui incarnera l'autorité et qui pissera le
au créneau aussi.
Mais
hein.
Oui, on s'en fout. Saisir la justice pour ça. Non, mais franchement.
Pour toi, c'est trop.
Bah, bien sûr.
Oui. Barbara.
Oui, porter plainte, mais je crains hélas qu'on ait là aussi un niveau en termes d'idéologie militante de nos étudiants. Qui en a quand même pris aussi un gros coup dans l'aile, hein. Parce que, excusez-moi, mais les militants des années 60-70, au moins, ils lisaient un peu les textes.
Ils criaient SRSSS.
Non, mais ils étaient cons comme les manches à balai.
Non, mais rien de fané.
Mais à l'époque, ils lisaient encore des livres. Alors aujourd'hui.
Ils lisaient Staline, Mao, le petit livre rouge, Lénine.
Eh oui, mais on voit où ça les amenait d'ailleurs.
Ah non, mais
aujourd'hui, ils lisent même plus, ils lisent des tweets, ils lisent les tweets des LFI. C'est pas mieux.
Si la jeunesse soit antiflique, j'ai envie de dire, rien de neuf.
Ah, toujours
mais y a pas, là, mais moi, il n'y a pas de problème qu'ils soient antiflics. Moi, tous ceux qui sont antiflics, je veux juste une chose. C'est que quand ils appelleront les flics ne viennent pas. Voilà, moi, c'est juste ce que je veux. C'est que t'es antiflic, ACAB et compagnie, pas de problème, pas de souci. Par contre, oublie d'appeler quand t'as un problème, quand t'as besoin d'une assistance et tout. Oublie, on vient pas. On te laisse là où t'es parce que ACAB, All Cops Are Bastards, bah tu sais quoi, les bastards, ils restent à la maison. Ouais, c'est tout. Tous ces gens-là, là, les gugus, ce petit bourgeois, là, qui se font payer l'école privée de d'art, de machin truc, tu sais quoi, quand t'appelleras les flics, ils resteront à la caserne. Et toi, tu te démerderas.
Charles Consigny, Abel Bouilly, Barbara Lefebvre, et avec vous dans un instant. Tu avais un truc à ajouter?
Juste un petit message personnel en 10 secondes. Je souhaite un joyeux anniversaire à ma maman.
Quel bon fiston, alors.
Bernadette.
Oui, Bernadette Gervier. Ouais. Nous la saluons et nous l'embrassons.
C'est chouette.
Dans un instant,
votre
la deuxième
vous,
heure des GG des ouais, Grandes Gueules. Le budget voté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, est-ce que la crise politique est terminée? Mission accomplie pour le cornu, 32-16 pour être avec nous.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.